C'est une dinosaure.
Là, on est sur le géant.
Il est au bout, là. Il est au pied du hangar bricolage, construction, décoration, jardinage. D'accord. Parle de la même chose qu'eux, en fait.
Bienvenue sur cette deuxième balade pour les équipes et pour toutes les personnes qui sont là. Je me présente, je suis Christine Breton. On a tenu à ce que ce soit ici, que se fasse cette présentation, parce que là, voilà, vous rejoignez le GR 2013. Tenter, c'est le but du jeu, hein, de ne pas être dans les cartes, dans cette représentation-là. On peut suivre la parole de Nicolas Mémin, encore aujourd'hui, pour faire les joints avec ce que vous avez vu hier.
Le plan de campagne, je pense, s'interroge et doit être interrogé dans une vision pas que commerciale, pas que forcément de ce territoire-là. En deux mots, il y a des enjeux importants que tout le monde connaît sur cette zone, qui sont la requalification de la zone. C'est quelque part un héritage d'un urbanisme commercial différent. On a souvent parlé de métropole autoroutière, on était typiquement là-dedans. Il y a eu une logique de loisirs carte bleue, les gens venaient et venaient dépenser et avoir des loisirs simplement en se promenant dans la zone. On parlait de prospective ou de rétrospective, il y a aussi la notion de comment est-ce que cette zone peut évoluer, les acteurs portent des projets de diversification, comment est-ce que les métropolitains, les habitants s'approprieront cette zone commerciale peut-être plus ludique demain, qu'est-ce que ça implique comme métamorphose aussi, donc il y a la question de la desserte. Il y a des projets de haltes ferrées éventuellement qui, ça, peuvent à la fois accompagner une mutation, voire imposer une mutation aussi. On ne fait pas une gare pour venir acheter un canapé de prime abord. Donc du coup, à partir de là, il faudra réfléchir à l'offre commerciale, à comment est-ce que cette gare s'accompagnerait, encore une fois, de projets peut-être immobiliers différents, de tertiaire. Ben, il y a la question, est-ce qu'on fait une grande porte d'entrée d'un point de vue purement transport pour l'agglomération, pour la ville de Marseille? Comment ça s'organise? Est-ce qu'il y a des capacités d'absorption de flux majeurs qui arriveraient sur un grand pôle d'échange? Donc voilà, des enjeux requalification, articulation commerciale avec les territoires voisins aussi, c'est une énorme zone. Il y a des mutations sociétales, de prix du carburant, de changement de comportement, de volonté des consommateurs d'être moins dans du gigantisme. Je pense que tous les acteurs commencent à prendre conscience de manière plus en plus fine des atouts comme des faiblesses. Maintenant, elle ne peut plus se penser seule. Il y a cette nécessité aussi que tous les acteurs se mettent sur la zone à réfléchir à son aménagement de demain et à son articulation entre Grand Littoral, où on va finir tout à l'heure, qui à vol d'oiseau est à côté. Il y a les centres-villes avec lesquels il faut trouver une complémentarité. Enfin voilà, il y a énormément d'enjeux, de points forts comme de faiblesses, souvent de méconnaissances, donc voilà, plein de choses.
Revenir un petit peu en arrière, c'est de l'urbanisme commercial spontané ici.
Oui.
C'était pas prévu pour être un centre commercial. Ça a été la bête noire de la DDE pendant des années et qui ont puni cet endroit en mettant des autoroutes partout. Au début, dans les années 70, donc c'était déjà bien engagé, c'était un grand modèle pour le postmodernisme, puisqu'il y avait des enseignes au néon comme il n'y avait nulle part dans la région. Et vous voyez, ça s'est beaucoup normalisé, le bardage blanc horizontal à l'anglaise. Au départ, c'est quelque chose de spontané, terroriste, etc. Et c'est un peu l'engagement des capitaux au pied noir. Dans le grand commerce, hein, Conforama, tous ces trucs-là, on sait bien d'où vient l'argent, et qui sont ceux qui ont investi dans ces grandes surfaces. Et en réalité, ici, Barnéou, puisque ça s'appelait Barnéou, c'était un promoteur qui pensait qu'on pourrait faire des boîtes dans lesquelles on mettrait tous les commerces, les centres commerciaux. Alors que là, maintenant, c'est les enseignes un peu comme partout, et les problèmes de ces enseignes se sont normalisés, quoi. Mais surtout, c'était le côté sud, quoi, hein. Et ben, c'est un bon endroit, c'est entre Marseille et Aix, l'aéroport, etc. Un petit peu comme le trafic de hache à la Castellane, c'est entre l'aéroport, les quartiers sud et Aix-en-Provence, voilà. Donc la spontanéité commerciale est toujours gagnante.
Petit point en attendant David Mangin qui s'est perdu dans le village Expo. Philippe Pujol est un journaliste à la base fait-diversier de la Marseillaise, qui est le premier fait-diversier de France à avoir reçu le prix Albert Londres pour son travail fait sur les trafics de drogue dans les quartiers nord. Mais il se trouve qu'il a fait d'autres terrains aussi qui sont moins connus. Personne ne sait en particulier qu'il a fait du terrain sur plan de campagne. Il avait quelques petites anecdotes à nous faire partager.
On est passé à côté là-bas d'une animalerie. Il faut savoir que l'animalerie à plan de campagne, à elle seule, va amener une quantité de personnes incroyables, parce que comme il n'y a pas de zoo à part celui de la Barbenne qui est un peu loin et qu'il n'y a pas d'aquarium, eh bien on amène les enfants regarder les petits poissons, les poissons clowns là comme Nemo, et d'ailleurs ils prennent bien garde de mettre des poissons qui sont exactement ceux des dessins animés. On trouve Dory, le petit poisson, le poisson chirurgien, on trouve Nemo, les petits poissons clowns, on trouve tout ce qu'on trouve dans les dessins animés, ils les mettent là-bas. Et les enfants, à force d'y venir chaque week-end, finissent par en acheter un. Et puis comme ils ne l'entretiennent pas, ils en achètent souvent parce que ça meurt souvent. ce parking là, vous avez un parking là, qui a l'air de rien. Ce parking, tous les vendredis soirs, à partir de 11h, il y a des courses de voitures totalement illégales qui sont faites là, comme dans le film Fast and Furious, mais un Fast and Furious marseillais, c'est-à-dire les filles sont un peu plus rondes, c'est un peu plus des cagoles, quoi. Et donc, c'est des courses de voitures où il se joue de l'argent qui se font ici. Alors, il y a aussi beaucoup de tuning qui sont faits là. C'est plus ou moins toléré par la police. Ce qui fait que ce parking, à part le vendredi soir, est utilisé par de très nombreux délinquants pour en faire un lieu d'échange de trafic d'armes et de trafic de drogue. Beaucoup de choses se font sur ce parking. Justement, c'est une zone où il y a beaucoup de monde. Donc, c'est contrairement à certains films où on voit ça dans des zones cachées, c'est plutôt des zones où il y a du monde que sont les échanges. Ce qu'on peut dire de manière simple sur plan de campagne, c'est que c'est vraiment un lieu de vie. Et les habitants viennent ici. Il y a un restaurant qui est par là. J'espérais qu'on passe devant parce qu'il est super beau, qui refait les restaurants des années 50 où dedans, il n'y a que du Elvis Presley. Et où il y a des hamburgers de 6 steaks hachés, des trucs hallucinants. Et si on le finit, on gagne un dessert d'ailleurs. Et quand on va dedans, c'est pas toc du tout, c'est hyper réaliste. On est dans les années 50-60, c'est très impressionnant. Et le dimanche, bien, c'est le lieu de sortie de cette population des villes nouvelles qu'il y a autour de Marseille. Ces habitants qui, avant les années 50, enfin dans les années 50, habitaient Marseille, qui ont quitté Marseille pour aller dans les villes nouvelles, là où s'est créé l'emploi, donc Vitrolles, Cabriès, tous ces trucs-là. Là-bas, il y a, je sais pas si on le verra de là-haut, il y a une usine désaffectée, qui est désaffectée depuis des décennies. Et dans cette usine-là, il y avait avant, jusqu'au milieu des années 70, il y avait les Américains qui tenaient leurs locaux de la NSA, de l'espionnage. Et ça ne s'est pas trop su, ça, même si le directeur le sait, puisqu'il voulait à un moment créer un parc d'attractions sur la thématique de l'espionnage. C'était une bonne idée.
Aqua City, on n'a pas le droit de construire au-dessus d'une certaine hauteur parce qu'il y avait les grandes oreilles françaises.
Alors les grandes oreilles françaises, c'est quoi ?
C'est aussi l'espionnage français qui écoute les communications.
En fait, c'est toutes les zones militaires. Ils sont souvent ici parce que c'est suffisamment bien placé, tu es sur un plateau et tu as des systèmes de radar. Mais maintenant, on n'en est plus là, maintenant on fait tout par satellite, on n'a plus besoin de ça. Plan de campagne, c'est vraiment un lieu de vie, c'est vraiment un lieu où il se passe beaucoup de choses. C'est pas un lieu de commerce pour moi, quand je m'y promène, tous les 10 mètres, je pourrais vous trouver des anecdotes, il y a plein de choses à raconter.